L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous, je suis avec Stéphane et Loïse Gras.
Bonjour.
Qui est déjà venu sur ce podcast. Et en fait, là, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir parce que tu es docteur en sciences de l'information et en philosophie. Tu es aussi chercheuse affiliée à l'Université de New York. Et donc là, on va plutôt parler de l'économie de l'attention et en particulier de la musique et de l'impact de ce qu'on peut apprendre de la musique finalement et du son sur les autres industries. Comment tu as commencé, pourquoi tu as commencé cette thèse? Comment on en est arrivé là?
C'est vrai que ça remonte à c'est une histoire très ancienne, en fait, parce que j'ai commencé à m'intéresser à la musique et aux technologies assez jeune. Ouais. D'une part à cause de mes problèmes d'audition, d'autre part parce que j'étais convaincue que ce qui se passait dans le partage de la musique, enfin comme tout beaucoup de jeunes, je partageais beaucoup de musique et j'en téléchargeais aussi, et j'étais convaincue que et que ce qui se passait, c'était ça dépassait un peu juste une question d'usage et de geeks qui échangent des disques durs, enfin en ligne. Et du coup, j'ai commencé par faire un travail de DEA, de master recherche, sur les plateformes collaboratives de musique, donc tout ce qui permettait en fait de soit partager de la musique avec tous les enjeux de droits d'auteur. C'était en plein Adopi à l'époque, du coup il y avait beaucoup de controverses et d'enjeux politiques. Ouais. Et puis progressivement aussi aux plateformes qui permettaient de faire des jam sessions en live. Et en fait, assez vite, cela c'était le bagage philosophique qui m'a amené à m'interroger sur deux choses. La première, c'est que je trouvais que la musique, on en parlait souvent très mal, soit dans sa dimension même, on va dire, de business et d'industrie, mais aussi dans sa dimension esthétique, en fait. Je trouvais qu'il y avait assez peu de... Souvent, on réduisait ça à un sujet de divertissement ou de groupe de fans de musique, etc. Mais assez peu à une question vraiment de qu'est-ce qui nous émeut dans la musique, qu'est-ce qui fait qu'on aime un style plutôt qu'un autre, au-delà même de la sociologie. Et puis la deuxième chose, c'était que manifestement, c'était extrêmement viral, en fait. Et du coup, il y avait beaucoup de gens. Enfin, très vite, les usages pouvaient provoquer l'effondrement. On a vu les majors et la panique autour des majors. Ouais. Ça prenait tout de suite beaucoup d'ampleur. Du coup, j'ai décidé de faire une thèse là-dessus. Enfin, de faire une thèse pour creuser ça. Ouais. Et j'ai fait une thèse, en fait, à l'époque où le streaming émergeait. Donc, c'est vraiment ça qui a appelé le sujet de l'écoute en ligne. C'était l'émergence du streaming après, justement, Adopi. Donc, dans une espèce de succession de formats, de supports, de médias et tout. Et puis, au fait qu'on avait de plus en plus de données sur ce qu'écoutaient les auditeurs, qu'on avait de plus en plus de musique générée par ordinateur, que tout ça, c'était donc du contenu que des ordinateurs et que des méthodes de calcul pouvaient appréhender totalement différemment de tout ce dont on avait l'habitude de penser pour comprendre la musique ou pour... Enfin, quand on disait musique, on imaginait tout de suite soit un disque, soit des musiciens, soit des gens qui vont à des concerts ou dans leur salon, quoi. Et là, tout à coup, il y avait énormément de changements. Donc, c'est ça qui m'a...
Et du coup, ton sujet de thèse, la problématique que tu as voulu traiter, c'est quoi précisément?
En fait, c'était comment il y avait ma problématique. Alors, comme ma thèse était dans une double discipline, on va dire d'un point de vue science de l'information, c'était vraiment de comprendre comment le streaming et comment l'écoute en ligne venait créer des problèmes nouveaux, soit sur un plan de gestion des droits, donc d'économie, sur un plan, donc, on va dire, des médias en quelque sorte, et puis sur un plan plus philosophique et du coup à la charnière des deux en humanité numérique, enfin, il y avait aussi un informaticien dans mon jury de thèse, par exemple. Comment est-ce que on peut comprendre le langage musical à partir de cette quantité d'informations et de data qui a été générée au cours des 10 dernières années, et de nouvelles formes d'appréhension même et de production et de distribution de la musique. Et en fait, assez vite, en commençant à regarder les choses sous cet angle-là, je me suis aperçue que c'était aussi une hypothèse, une intuition que j'avais, c'est que la musique avait anticipé beaucoup des autres industries culturelles. Donc ce qui se passait dans le livre, je travaillais un peu dans le monde de l'édition, donc j'avais vu le décalage en fait entre la musique c'était arrivé assez tôt pour les maisons de disques, et puis petit à petit ça venait aussi auprès des éditeurs, enfin interpeller les éditeurs. Le fait que, par exemple, Napster, ça a été fermé en 2001, donc finalement, la controverse autour des droits et de la propriété intellectuelle et du piratage de la musique, elle avait 10 ans, 15 ans.
Avant que toutes les autres industries arrivent dessus.
Absolument. Ouais. Avant que même on ait Netflix, enfin.
Ouais, exactement. Et alors, du coup, parce qu'en fait, quand tu parles de la préférence musicale, par exemple, ce que fait Spotify avec les playlists, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils te disent ou ils te dictent. Quelque part, j'ai l'impression que les algorithmes, ça lisse les goûts. Donc il y a deux choses, il y a l'attention, donc comment je capte de l'attention, et effectivement cette économie du clic, et j'aimerais bien qu'on en discute, mais il y a aussi effectivement le lissage du goût à travers les algorithmes, non ?
Les deux vont ensemble en fait. D'accord. C'est-à-dire que la manière dont, pour capter ton attention, j'ai besoin d'avoir le plus de données personnelles sur tes usages, ce que tu as liké, ce que tu n'as pas liké, ce sur quoi tu as écrit des commentaires, ce sur quoi tu n'as pas écrit des commentaires, enfin, toute ton activité en ligne qui est stockée et tracée. Et ça permet de générer ce qu'on appelle les profils de goût. Donc moi, ma thèse portait particulièrement sur un algorithme qui s'appelle Econest, qui a été racheté par Spotify à la fin de ma thèse. Et qui a été fabriqué par deux chercheurs du MIT, qui ont monté leur start-up pour faire ça. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'eux étaient les premiers dans l'histoire même des plateformes de musique en ligne à avoir croisé, ou en tout cas déclaré croiser, des données d'origine acoustique, c'est-à-dire une analyse du son et de la musique en tant que telle, avec des données d'usage qu'on peut trouver sur les réseaux, enfin, qu'on récupère et qu'on collecte sur les réseaux. Et en fait, d'un point de vue scientifique, c'était deux approches qui cherchaient à modéliser l'interprétation musicale, donc ce qu'on appelle l'interprétation musicale, c'est-à-dire comment est-ce que la musique nous affecte, qu'est-ce qui fait qu'on va donner un sens à la musique plutôt qu'un autre, qu'est-ce qui fait que l'interprétation qui va aussi du coup avec des théories de la composition musicale, c'est-à-dire est-ce que quand je joue un accord en do majeur, ça rend les gens plutôt contents, est-ce que quand j'ai des musiques binaires, bon voilà, c'est là que toute la théorie musicologique en fait était importante et pour comprendre ce qui se passait en fait du côté de l'informatique et vice-versa. C'est-à-dire que ce que j'ai vu aussi à travers ma thèse, c'est que finalement, avec ces nouvelles approches basées un peu sur ce qu'on appelle le big data, enfin appliqué à la musique, on arrivait à des nouvelles formes d'analyse et de compréhension des morceaux de musique qui pouvaient d'une certaine manière remplacer la musicologie quelque part. Parce que finalement, on avait une toute autre approche de ce qui peut être, de comment est-ce qu'on peut analyser un morceau de musique, comment est-ce qu'il va faire effet sur quelqu'un ou sur un groupe de personnes, ou comment est-ce qu'il va être diffusé, etc.
Et aujourd'hui, c'est des techniques qu'utilisent les plateformes, ça ?
Tout à fait. Alors, il y a quand même aujourd'hui... On va pas se mentir, dans le machine learning, il y a beaucoup, beaucoup plus de données d'usage que de données de contenu, entre guillemets. Sur l'analyse acoustique en particulier. En cela étant, c'est vraiment un champ de la recherche et qui permet en fait de donner des degrés de précision beaucoup plus réussis, enfin plus fins. Et donc, c'est utilisé par l'ensemble des grandes plateformes. Ça a même donné lieu, en fait, à. Enfin, on retrouve une filiation entre ces algorithmes utilisés pour, en gros, de la recherche d'information. Ce qu'on appelle d'ailleurs la recherche d'information musicale, le MIR, Music Information Retrieval, ont permis, en fait, associé à l'idée qu'on peut modéliser les comportements et les goûts musicaux, ont permis à toute une génération d'algorithmes qui vont détecter les émotions, par exemple dans nos voix. Donc ils vont venir écouter en fait d'autres contenus sonores pour dire celui-là il est plutôt déprimé, celui-là il est plutôt en train de mentir, celui-là il est plutôt malade. Voilà, donc tout ce que j'ai appelé un peu une forme de capitalisme émotionnel, enfin c'est-à-dire une forme d'intérêt marqué pour les émotions et puis qui soutiennent le développement de l'intelligence artificielle.
Et ce artificielle. Qui est intéressant, c'est que tout le monde parle de la voix comme de l'UX du futur, entre guillemets, c'est-à-dire entre Google Home, Alexa, le scandale qu'il y a eu aussi sur cette application, comment ça s'appelle, Shazam, qui te... Donc sur cette application Shazam qui enregistre tout ce que tu dis. Donc il y a eu pas mal de... Ou sur l'iPhone, en fait, on sait bien que en fait, l'iPhone, même quand il est éteint, globalement, il enregistre ce que tu... Enfin, il enregistre, en tout cas, il écoute ce que tu racontes. Est-ce que ça... Enfin, parce que du coup, les recherches que tu as faites, quelque part, ça veut dire que les plateformes, potentiellement, les GAFA ou les plateformes de manière plus large, elles peuvent savoir dans quel mood, dans quel état t'es. Finalement, on pourrait imaginer, si on pousse un peu le vice, qu'ils te poussent des musiques, tu vois, par exemple, dans les playlists que Spotify te propose, qui correspondent à ton état d'esprit du moment, non ?
Tout à fait. Alors, effectivement, je m'avancerai pas sur le fait qu'ils le font déjà.
Mirror, hein.
Voilà. Je m'avancerai pas sur le fait qu'ils le font déjà. Enfin, officiellement, ils le font pas à ma connaissance, en tout cas.
Non.
Il y a, par contre, des applications qui existent, qui écoutent nos voix et qui vont nous recommander derrière, vous êtes stressé, etc. Enfin, de la même manière qu'on a des applications qui suivent les battements du cœur, etc. Ouais. Tout ça, ça participe aussi d'une modélisation presque biologique, en fait. Enfin, la particularité du son et de la musique, c'est que c'est très physique en fin de compte. Quand bien même, surtout quand il est capté, on va dire, par des micros ou des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très matériel en fait.
Ouais.
Et donc, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, alors il y a la possibilité dans la génération de playlists, enfin, ça, c'est encore un sujet en soi, on va dire, puisque ce qui s'est passé avant qu'on arrive à vraiment cette idée, enfin ce qui se passe aujourd'hui avec Alexa, avec Google Home, etc. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir on a eu une telle amélioration de tout l'enregistrement en fait du home studio, etc. qui fait que la qualité des micros aujourd'hui elle est telle que bon, on arrive à capter beaucoup beaucoup d'informations. Mais avant ça, il y avait sur le sujet des playlists, la possibilité de croiser tout à coup des données musicales, donc à travers le MIR, le Music Information Retrieval, ce qui faisait que tu pouvais tout à coup te mettre à proposer des playlists en fonction des cocktails que tu étais en train de boire ou si tu regardais plutôt tel film ou si tu lisais plutôt tel livre, ou enfin tout ce croisement de contenu là, il a été d'abord expérimenté vraiment au niveau enfin sémantique dans l'univers musical, ouais.
Alors du coup, parce qu'on parle d'économie de l'attention, qu'est-ce que les marques ou qu'est-ce que les gens qui écoutent peuvent retenir de ce que t'as, enfin c'est quoi les leçons ou les plus grands enseignements que t'as retirés de ta thèse sur cette économie de l'attention ? Parce que t'en as fait un bouquin quand même.
Ouais, qui va bientôt sortir, que j'ai appelé les machines du goût, l'algorithme au cœur de nos sensibilités. Et moi, je dirais, c'est toujours difficile, même si on s'efforce de plus en plus de résumer les thèses en 180 secondes.
C'est quand même quelques minutes.
C'est difficile de résumer une thèse en un travail qu'on a fait pendant 4 ans ou 5
Bien
ans.
Sûr.
mais je dirais les grands enseignements. En fait, le premier, on en a parlé au début de cet échange, c'est vraiment l'antériorité de la musique et pourquoi. Et ça, moi, ça a confirmé, en fait, une hypothèse que j'avais, qui est que on voit la fin d'un monde qui était très centré sur l'œil et le regard, très oculocentré, vient à la fois des racines philosophiques très fortes, des racines épistémologiques et même industrielles, c'est-à-dire que finalement on a, depuis qu'on a mieux compris le corps humain, depuis qu'on a mieux compris et depuis la naissance des industries culturelles, on a un peu disséqué les individus entre leur capacité de regarder, d'entendre, de sentir, de goûter, et tout ça a généré des industries aussi. et de la production de contenu, etc.
Et puis les plateformes Google et Facebook ont poussé vers ça, c'est-à-dire avec la vidéo et l'image.
Voilà, absolument. Et donc, ce que le numérique ou la grande révolution à ce niveau-là, pour les industries culturelles, c'était tout à coup, il y a une convergence. C'était pas nouveau, hein. On a très vu que le multimédia, par définition, c'est multimédia, donc il y a une convergence. Ça, c'était un des fils que j'ai tiré dans ma thèse beaucoup sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on revient au son, à la voix, à quelque chose du coup de qu'on imaginerait comme étant plus immédiat aussi, qui n'est pas forcément plus immédiat, hein, parce que je crois que on a tous des manières d'écouter différentes, qu'on apprend à écouter, comme on apprend à regarder, comme on apprend à sentir. Ça, c'est une première chose. La deuxième, je dirais que c'est aussi ce dont on a parlé, c'est-à-dire le fait que sur la question, par exemple, des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, il y a eu vraiment quelque chose à penser du côté de l'auditeur acteur, de l'auditeur compositeur, du consomme acteur, enfin, qui devient donc cette capacité finalement qu'a le numérique de mettre le gros bordel dans tous les rôles professionnels, quels qu'ils soient, et dans les chaînes de valeur, quelles qu'elles soient,
c'est clair.
Pour nous rendre à la fois consommateurs, producteurs, travailleurs, employeur, enfin voilà. Et ça, c'est aussi un sujet qu'on observe particulièrement sur l'économie politique de la musique, et assez tôt. Et le dernier aspect que je trouvais intéressant, c'est vraiment, ou ce que j'ai découvert, on va dire, c'est qu'il y a une force fictionnelle, ou enfin en tout cas, une capacité à créer de l'émotion très particulière dans le son et dans l'écoute qui vient d'un certain rapport au corps aussi. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une ère où de plus en plus, et on le voit bien même à travers la multiplication du marketing, de la méditation, de comment est-ce qu'on doit tous être réincarnés à nouveau, réhabiter nos corps, etc. Parce que d'une certaine manière, on vit dans... Et évidemment que les technologies, ils sont aussi pour quelque chose, hein, mais finalement, les technologies nous obligent à revisiter notre rapport au corps et notre rapport aux émotions. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, au sein duquel le son et l'écoute et la musique ont toujours une place particulière.
Mais alors du coup, dans ce que tu dis, c'est que les autres industries, donc en particulier tout ce qui est oculocentré, ont à apprendre du son. Parce qu'en fait, finalement, le son a été... Voilà. Mais en même temps, ce que tu dis, c'est que d'un autre côté, le son va revenir sur le devant de la scène versus...
C'est-à-dire que, tout simplement, je ne sais pas si on appellera... Enfin, si on distinguera encore beaucoup le fait de enfin finalement on va être de plus en plus, et ça tu le sais très bien, dans le marketing expérientiel, etc. On y est déjà, hein, c'est sûr, et du coup du côté de la fiction, de la création et de la production de contenu, on va être de plus en plus dans des expériences, en plus en réalité virtuelle, pardon. Je pense que la place du son dans la capacité à créer de la fiction et à créer de l'expérience va être forcément affirmée, puisque le son, et ça c'est prouvé sur un plan au niveau des neurosciences comme au niveau de l'histoire des émotions d'ailleurs, la musique a toujours un rôle central dans la capacité à déclencher de l'émotion, à parler directement au corps, parler directement au cœur, comme dirait Rousseau. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va à mon avis exploser de plus en plus, aussi bien dans des univers de réalité virtuelle que dans le monde du son pur flux ou dans la fiction en général et l'expérience fictionnelle.
Alors que jusqu'à présent, les technologies, ce qu'elles ont fait, c'est qu'on était surtout sur l'accès, c'est-à-dire qu'on a beaucoup comprimé le son, donc on s'est pas trop soucié de la qualité du son, mais on s'est plus intéressé au fait d'accéder. Donc typiquement, quand je vais sur Spotify ou Deezer ou sur YouTube, j'ai accès avec une qualité qui est plus ou moins bonne, mais j'ai accès. Sinon, les gens seraient sur Qobuz ou je ne sais pas quelle autre plateforme qui diffuse des morceaux en meilleure qualité. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est l'accès plus que la qualité. Donc ce que tu dis, c'est que toi, on va de plus en plus dans l'expérience, donc sur une forme de qualité quand même.
Alors, je mettrais pas la qualité au... Enfin, je n'ignorerais pas qualité et expérience.
D'accord.
Parce que je pense que finalement... Ce qu'on appelait qualité il y a 20 ans, ce qu'on appelle qualité aujourd'hui, c'est en termes sur le son, d'ailleurs, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Et c'est ce que j'ai bien voulu, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ma thèse, c'était de réfléchir à comment nos modalités d'écoute évoluent aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est plus à même d'accepter ou pas en termes d'auditeur, en tant qu'auditeur. Et qu'est-ce qui est de l'ordre du beau et ce qui ne l'est plus, ou ce qui est de l'ordre du bien et du qui fait du bien et ce qui ne le fait plus, ce qui est les bruits insupportables. On voit une recrudescence des acouphènes depuis 10 ans. Donc je pense que J'alignerais pas ça. En revanche, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que il y a eu une mutation des formes d'accès à la musique et ce que les plateformes et le streaming a commencé à monétiser et à monnayer pour exister, c'était ça. C'était l'idée qu'ils donnaient accès tout à coup à des bases de données gigantesques de chansons, de morceaux, que toute une vie entière ne suffirait voilà, pour les écouter tous. Cela étant, aujourd'hui, ça soutient l'idée que tu puisses avoir des expériences uniques et en même temps très standardisées. C'est ce paradoxe-là qui est intéressant, en fait. Mmh. C'est que, d'une certaine manière, aujourd'hui, Spotify continue, le business principal de Spotify, c'est d'être capable de faire des playlists super accurate, pardon, pertinentes. super pertinent sur par rapport à ta situation d'écoute, tes goûts, etc. Et cette capacité-là, elle est forcément basée sur l'idée que derrière, il a accès à une base de données de sons et de morceaux de musique qui agrandit, élargit considérablement le champ des possibles par rapport à quelqu'un qui a une discothèque physique. Et en même temps, paradoxalement, on ne va plus chercher, on ne va plus fouiller. Et ce qui nous intéresse, c'est non pas la diversité au sens d'être capable de se repérer dans ces grandes bases de données, mais bien plutôt l'expérience en tant que telle, c'est-à-dire le fait que je passe d'un morceau à un autre et « Ah tiens, c'est marrant, ce morceau-là, je le connais pas et je le découvre. » Et puis c'est l'ensemble de la playlist qui finalement devient une expérience aussi.
Et alors, ce podcast, il s'appelle Vlan. À quoi ou à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
Je dirais que je claquerais la porte... à toutes les personnes qui pensent que la musique et le son, c'est pas sérieux. Voilà.
Pas mal. Non. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.